France Inter, le 6-9 de l'été, intervenez.
Interactive avec notre invité ce matin, Benoît Hamon, député socialiste des Yvelines, candidat à la primaire socialiste, 01 45 24 7000, les réseaux sociaux aussi. Vanessa est à Boulogne. Bonjour Vanessa.
Oui, bonjour.
Benoît Hamon vous écoute.
Oui, bonjour monsieur. J'avais une question, je pense qu'on est quelques-uns à se la poser. On a bien compris que les frondeurs ou ex-frondeurs ou certaines personnalités comme Madame Taubira étaient plutôt de tendance de gauche de la gauche. Et on se demandait pourquoi ne pas pousser le raisonnement jusqu'au bout en créant un parti, soit vraiment un parti socialiste en opposition aux sociodémocrates qui sont au pouvoir maintenant.
Benoît Hamon.
Écoutez, ces formules partisanes, on y réfléchira en temps et en heure. Aujourd'hui, ce qui me semble important, puisque c'est l'élection présidentielle, c'est d'abord de faire des bilans et aussi de essayer de lever une espérance. Ce qui est frappant dans la vie politique française aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de monde qui pense qu'on puisse améliorer la situation, plus beaucoup de monde qui pense qu'on puisse reprendre la marche du progrès, alors que c'était votre revue de presse en témoignait, de l'innovation, il y en a partout en France. De l'innovation citoyenne, de l'innovation pédagogique, de l'innovation sociale, qui amène des Français à prendre des initiatives, à construire ici une crèche à horaire décalé, ici un système d'échange local qui permet d'échanger des services, ici une monnaie locale. Bref, il y a de la solidarité qui se construit. Tout le problème, c'est que personne n'arrive à finalement donner un cadre général à ces initiatives et à reprendre la marche du progrès. Moi, ce qui me semble le plus important et qui permettra peut-être de reconstruire la vie politique différemment après, mais l'après, on y réfléchira en temps et en heure, c'est de mettre aujourd'hui des idées en débat. J'ai évoqué le revenu universel d'existence. Vous savez, c'est incroyable de voir que dans ce pays, on pense qu'on ne peut s'accomplir qu'à travers le travail. Je pense effectivement que le travail, c'est important. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai beaucoup milité pour la reconnaissance du burn-out, parce que les pathologies psychiques liées au travail ne cessent de se développer. Pour autant, aujourd'hui, il y a plus de 5 millions de personnes inscrites à Pôle emploi. Et la marche de la réduction du temps de travail a été interrompue. Je pense qu'il faut reprendre cette marche-là. Et je pense qu'il faut la reprendre d'abord pour améliorer le bien-être au travail et faire en sorte de diminuer le chômage. S'il y a bien une solution qui a fonctionné dans le passé, c'est bien celle-là. Et de surcroît, si j'invite en tout cas les auditeurs à se pencher sur cette prévision, on estime que à raison de la révolution numérique, 43% des emplois aujourd'hui en France seraient menacés parce qu'ils pourraient être remplacés par une technologie, un algorithme, une solution interactive. Eh bien, comment anticipe-t-on cela? Comment fait-on en sorte que ça ne se traduise pas par davantage de désespérance, davantage de chômage? Ça me semble être des questions fondamentales et je pense que la gauche ne se reconstruira qu'à partir de réponses autour de la question sociale, de la question démocratique. Ce sont des questions qui aujourd'hui, à bien des égards, sont en jachère quand on écoute le discours, notamment du Premier ministre.
Donc vous n'avez pas le sentiment que les Français ont besoin plutôt d'un président protecteur plutôt qu'un président antilibéral?
Mais un président protecteur, oui, mais arrêtons avec les hommes providentiels. Franchement, ça fait des années, non mais sinon des décennies, que se succède aux campagnes présidentielles le bal des hommes et femmes providentielles.
Mais là, je parlais de la situation sécuritaire.
Mais j'ai bien entendu. Mais évidemment que ces questions-là sont centrales. Et on pourra interroger aussi un certain nombre de choix de politique étrangère qui ont pu être faits depuis maintenant 4, sinon 10 ans. Mais aujourd'hui, l'élection présidentielle, elle se résumerait à qui saurait faire président. Mais faire président, aujourd'hui, ce n'est pas surjouer le rôle du l'homme providentiel protecteur, le père de la nation. Écoutez, les pères de la nation, on en a eu beaucoup. Pour autant, il y a plus de chômage. Pour autant, il y a plus d'inégalités. Pour autant, le modèle républicain est en crise parce qu'il n'est incapable de mettre en œuvre sa promesse essentielle, l'égalité des citoyens devant la loi. Ce sont ces questions-là qui sont importantes. Et si on n'en parle pas, et bien effectivement, on aura un bal d'égo, on surjouera, on verra surjouer le clivage droite-gauche pour, au bout du compte, le voir surjouer pendant les campagnes électorales, mais se demander ce qui différencie fondamentalement un homme de droite qui est pour la réduction des déficits, d'un homme de gauche qui est pour la réduction des déficits. D'un homme de droite qui est pour faciliter les licenciements, d'un homme de gauche qui est pour faciliter les licenciements. Mais où est le clivage, là? On ne le voit pas. Et c'est pour ça que les Français, aujourd'hui, aspirent à des projets alternatifs. J'espère pouvoir contribuer à les éclairer durant cette campagne présidentielle.
Les réseaux sociaux, Camille Magnin, il y a des questions
sur Twitter, oui. Luc Léandri a pas mal écouté tout ce que vous avez dit depuis 8h20. Il voit que vous remettez en cause l'obsession de croissance. Vous proposez la 6e République. Vous êtes sur les questions sociales, démocratiques. Il dit, tout ça, c'est le programme de Jean-Luc Mélenchon pour 2017. Alors pourquoi ne pas le rejoindre directement?
Écoutez, Jean-Luc Mélenchon, il pourrait participer à une primaire de gauche. Et nous n'aurions qu'un candidat. ce serait une formidable opportunité, des rassemblements pourraient se nouer. Moi, je n'écarte aucune hypothèse, et j'espère que la gauche se rassemblera. Ce qui est certain, c'est que si on continue à dire que les gauches sont irréconciliables. D'un côté, Manuel Valls qui dit « je ne veux plus entendre parler de cette gauche contestatrice ». De l'autre côté, Jean-Luc Mélenchon qui dit « je veux d'abord battre le Parti Socialiste ». Eh bien, c'est assuré que nous aurons un deuxième tour, les Républicains contre Madame Le Pen. C'est assuré que pendant longtemps, la gauche sera sévèrement défaite. Et moi, j'aspire aussi à ce que ce débat de la présidentielle mette en jeu des conceptions nouvelles de la vie politique. Vous savez, la vie politique française, elle est peuplée de généraux défaits qui aspirent à des revanches. Moi, je n'ai pas été candidat aux primaires en 2007, pas été candidat aux primaires en 2011, pas été candidat à la présidentielle. Je n'ai aucune revanche à prendre vis-à-vis de qui que ce soit. Je n'ai aucun remords par rapport à des actes que j'aurais pu commettre auparavant. J'aspire à la constance dans les choix et à exprimer aujourd'hui, dans le cadre d'une candidature à l'élection présidentielle, et une participation aux primaires, à mettre en débat ces idées-là. Et je le dis, si nous n'avons qu'une obsession dans cette présidentielle, c'est de battre l'autre gauche, on est certain qu'on va se battre soi-même.
Laurence Buron, du service politique de France Inter.
Oui, un autre sujet, vous êtes élue d'une circonscription populaire des Yvelines, où l'économie souterraine est une réalité. Je voulais savoir comment vous vous positionnez par rapport à ce débat qui rejaillit un petit peu sur la dépénalisation du cannabis. Marie-Noëlle Lindemann, par exemple, candidate comme vous, est favorable à ce qu'on le dépénalise. Elle préconise même que dans les quartiers, parce qu'elle a sorti ses propositions, ce soit les jeunes des quartiers qui s'occupent un peu à la manière de la CEITA anciennement, qui s'occupent de ce commerce.
Benoît Hamon.
Écoutez, il y a eu un rapport très intéressant qui propose de finalement de passer de la pénalisation aujourd'hui de l'usage du cannabis à la contraventionnalisation de celle-ci, c'est-à-dire une simple amende. On est dans l'hypocrisie la plus totale sur ces questions-là. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on sait que l'économie souterraine liée au cannabis,
extrêmement... pas qu'au cannabis d'ailleurs.
Oui, pas qu'au cannabis, mais là en parlant du cannabis, est extrêmement importante, qu'elle est le foyer de délinquance, d'insécurité. Et vis-à-vis de cela, on reste sur une position qui, au nom de la fermeté, choisit l'inefficacité, mais la posture ferme. Typiquement, 5e République. C'est-à-dire qu'on surjoue la fermeté, mais en réalité, il n'y a pas moins d'insécurité, il n'y a pas moins de violence, pas moins de délinquance et pas moins de commerce de cannabis. Sur ces questions-là, je pense que le sujet, au-delà de la dépénalisation de l'usage du cannabis, c'est la question de la légalisation aujourd'hui du cannabis. C'est-à-dire le fait de mettre en débat le principe selon lequel, comme dans d'autres pays, l'État prenne en charge la distribution contrôlée du cannabis, et il faudra qu'on ait ce débat-là. Et moi, je souhaite qu'on l'ait parce que une fois encore, on est dans l'hypocrisie la plus complète. C'est-à-dire qu'on se satisfait de postures, on sait que rien ne marche, qu'aucune solution n'est trouvée à l'existence de cette économie souterraine. Vous voulez tarir cette économie souterraine, la légalisation, l'encadrement de la distribution de cannabis, comme ça s'est fait ailleurs, peut être une solution. Moi, je veux qu'on travaille sur ces questions-là sérieusement. Alors, on nous dira, oulala, ça y est, vous encouragez les gens à se droguer, diront ceux qui veulent aujourd'hui que on puisse commercer, en tout cas remettre en cause la loi Evin sur le tabac ou la loi Evin sur le commerce d'alcool, mais tranquillement, sans vergogne, on entendra ce genre d'argument, sans que personne ne propose rien. Les prisons sont surpeuplées et on continue aujourd'hui à pénaliser l'usage du cannabis. Moi, je n'encourage pas l'usage du cannabis. Je n'encourage pas la prise de drogue, même de drogue douce. Je pense que aujourd'hui, ces formes d'addiction sont dangereuses, notamment pour les jeunes. Mais je crois qu'il faut qu'on se penche sérieusement sur ces questions si on veut tarir les foyers d'insécurité, l'économie souterraine et la délinquance et la violence qu'elle entraîne.
Au standard, Thomas dans l'Oise veut intervenir. Bonjour Thomas, merci d'être avec nous.
Bonjour.
On vous écoute. Benoît Hamon, on vous écoute.
Bonjour Monsieur Hamon.
Bonjour.
Si j'ai bien compris, vous dites qu'il y a un problème de représentation de la population dans les assemblées. Donc vous, en tant que candidat, est-ce que vous êtes favorable à la proportionnelle intégrale avec l'éventualité de voir le navire de guerre Front National faire une entrée fracassante l'année prochaine à l'Assemblée ?
Benoît Hamon.
Et le navire de guerre Front National fera une entrée fracassante à l'Assemblée nationale, même avec le scrutin majoritaire. Et si on pense qu'on va pouvoir faire respirer la démocratie en considérant normal que 30 à 40 voire 50% de l'électorat n'ait aucune représentation à l'Assemblée nationale, et en pensant que les autres, dans cette forme d'entre-soi, entre la gauche modérée et la droite modérée, vont régler les problèmes du pays, mais nous n'y arriverons pas. Faut sortir de la politique de l'autruche. Non seulement le Front National est une réalité politique, il est crédité de 25 à 30% pour sa présidente d'intention de vote au premier tour de l'élection présidentielle. Quand j'entends les Français moquer les États-Unis et Donald Trump, regardons ce qui se passe chez nous. Donc oui, je suis favorable à ce qu'il y ait une dose de proportionnel. Jusqu'où ira-t-on ? On peut en discuter, y compris sur la méthode pour mettre en place une nouvelle constitution et une sixième république, mais je suis favorable à ce que toutes les nuances de la vie politique française soient représentées. Comme je suis favorable à la prise en compte du vote blanc. Et je considère qu'aujourd'hui, il n'est pas normal qu'on ne prenne pas en compte le vote blanc quand c'est une forme d'expression politique qui consiste à dire « je veux participer à un scrutin, je considère aujourd'hui qu'aucune offre politique ne me va et je l'exprime à travers le vote blanc ».
Comment réagissez-vous aux récentes déclarations de Nicolas Sarkozy qui relance le débat sur la question du droit du sol ? On le garde, dit-il, mais pas de manière automatique. Il parle de présomption de nationalité.
Il a changé 4 fois d'avis là-dessus. 4 fois. Ou 5 peut-être. Pour, contre, pour, contre. On est en campagne présidentielle. Il court après Marine Le Pen, il remet en cause le droit du sol. N'y voyez rien d'autre qu'un calcul électoral. Aujourd'hui, hélas, celle qui donne le là du débat politique, c'est Marine Le Pen. Ensuite réagit Nicolas Sarkozy, puis réagit Manuel Valls, etc., etc. C'est elle qui donne le là du débat politique. Moi, je refuse de parler aux classes populaires françaises en leur parlant seulement de la question identitaire. Je me refuse dans cette campagne présidentielle à être un de ceux. Je ne méprise pas cette question. Cette angoisse identitaire, elle existe. Mais moi, je veux parler aux classes populaires du fait qu'il n'est pas normal et pas fatal que le 15 du mois, on ne sache pas payer son loyer ou qu'on soit déjà à découvert. Je pense aujourd'hui qu'il n'est pas normal que l'on travaille et que l'on soit pauvre. Qu'il n'est pas normal que l'on ne puisse pas se soigner correctement. Qu'il n'est pas normal qu'il y ait plus de jeunes pauvres en France. Ça n'est pas normal. Et si on parle aux classes populaires, on parle aux classes populaires de toutes origines. On ne se préoccupe pas de savoir si une telle porte un foulard, un tel va à la messe, un tel est athée. On parle à celles et ceux qui, aujourd'hui, ne peuvent pas vivre correctement ou parce qu'ils n'arrivent pas à trouver un emploi ou parce que, malgré le fait qu'ils travaillent ou qu'ils ont une retraite, n'ont pas assez d'argent. C'est ça qui m'intéresse. Et je me désespère que la gauche, ou en tout cas une partie de la gauche, n'ait plus rien à dire à ces gens-là. Et savez-vous, certains par calcul électoral, parce qu'ils pensent que les pauvres ne votent pas. Mais moi, je me préoccupe même de ceux qui ne votent pas. Et ce qui m'intéresse, c'est que demain, quand on parle de la République qu'on invoque tous les matins avec des sanglots dans la voix, on parle de la République réelle. L'égalité des droits, l'égalité des citoyens devant la loi. Est-ce qu'aujourd'hui, on considère que l'égalité va bien dans ce pays ? Non, elle va mal. Est-ce qu'on est moins discriminé en France après 4 ans de quinquennat socialiste qu'auparavant ? Non. Est-ce qu'on est plus égaux après 4 ans de quinquennat socialiste ? Dans quelques domaines, non. Dans quelques domaines, oui, mais dans quelques domaines, non. Mais ces questions-là, elles sont centrales. Si on n'arrive pas à recréer un projet collectif, un imaginaire collectif autour de la République, justement, ben on pourra toujours chanter « Ce sont les extrêmes qui gagneront ».
Henri, en Normandie. Bonjour Henri. Henri, êtes-vous en ligne avec nous ?
Oui,
au standard. Allez-y, soyez pas trop long parce que le temps
Bonjour,
passe vite.
Oui, mais j'espère une réponse courte aussi, justement. Bon, force est de constater qu'au niveau social, on n'a jamais assisté à un tel recul sous un gouvernement de gauche. Alors, sur 3 points principalement, le versement du CICE et du crédit impôt recherche au patronat, le grand patronat qui en a profité largement pour renouveler ses marges ou pour satisfaire ses actionnaires, et de cerise sur le gâteau, la loi El Khomri. Donc sur ces 3 points, je demanderai à M. Hamon s'il a l'intention de fermer le robinet du CICE et du CIR et d'abroger carrément la loi El Khomri. Donc je ne pourrais pas orienter sa réponse, mais je crois qu'il n'y a pas de tierce possibilité, c'est soit oui ou soit non, même en argumentant sur chacun de ces points.
Benoît Hamon.
Élu président de la République, je proposerai l'abrogation de la loi El Khomri. Aujourd'hui, je ne suis pas favorable à ce qu'on baisse le tarif des heures supplémentaires. Je ne suis pas favorable à ce qu'on facilite le licenciement. De la même manière, sur le crédit d'impôt, là où, dans des secteurs dans lesquels nos entreprises sont exposées à la concurrence internationale, j'y suis favorable. Dans des secteurs dans lesquels la restauration des marges ne se traduit pas par une augmentation des salaires ou une amélioration aujourd'hui de l'investissement, mais par une distribution supplémentaire de dividendes, il faudra remettre en cause la distribution du CICE parce qu'il n'a pas d'impact sur l'emploi. Je pense que l'argent public est trop rare, trop précieux pour qu'on le distribue ou qu'on le gâche comme on le fait parfois sans cibler un certain nombre de mesures. Donc voilà sur ces questions ce que je propose, mais dire qu'on abroge la loi El Khomri, ça ne veut pas dire qu'on n'encourage pas la négociation sociale. Je pense aujourd'hui que la négociation doit se faire au niveau des branches, au niveau de l'entreprise, que la question par exemple de la santé au travail est une question centrale sur laquelle on doit encourager les négociations entreprise par entreprise sur l'organisation du travail. On doit se préoccuper du fait que des gens sont malades au travail aujourd'hui, malades au travail, alors que d'autres sont au chômage. Sur ces questions-là, oui, la négociation doit avoir lieu. Mais la loi El Khomri, parce qu'elle aujourd'hui a comme conséquence de fragiliser les salariés, ou elle fragilisera, parce qu'elle ne s'applique pas encore tout à fait, oui, je proposerai son abrogation. Mais comme j'aspire à une république beaucoup plus démocratique et qui respire davantage, ce ne sera pas le fait du prince. Le débat aura lieu avec le Parlement.
Benoît Hamon, merci beaucoup, Benoît Hamon, d'avoir accepté l'invitation de France Inter ce matin.